France Info.
Avec l'un des correspondants de France Info aux États-Unis. J-1 pour les municipales, c'est le premier tour demain. On se prépare dans les mairies partout en France. Exemple dans le journal avec un cas particulier, celui de Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Elle est soupçonnée d'avoir détourné la somme invraisemblable de 100 millions d'euros. L'ex-trésorière de Kiabi en détention provisoire est récemment sortie de prison sous bracelet et en toute discrétion. C'est une information France Info. Le football, Marseille conforte sa 3e place en Ligue 1 après sa petite victoire 1-0 face à Auxerre dans la 26e journée. Et l'affiche sportive du jour, c'est le crunch. France-Angleterre dans le tournoi Destination. Les Bleus, toujours en lice pour gagner le tournoi, mais pas le grand chelem. Le crunch qui a 120 ans anniversaire, qui sera dignement fêté ce soir au Stade de France. La guerre menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran entre donc aujourd'hui dans sa 3e semaine. La circulation du pétrole dans le détroit d'Ormuz est toujours au cœur des inquiétudes. Le régime iranien parvient toujours à bloquer la circulation des cargos, ce qui fait monter le cours mondial du brut et les prix à la pompe. Dans ce contexte, et c'est une nouveauté, Donald Trump affirme que l'armée américaine a mené hier des frappes contre l'un des points névralgiques de ce casse-tête pétrolier, l'île iranienne de Karg, site hautement stratégique à Atlanta pour France Info, les explications de Camille Magnard.
Karg, îlot d'à peine 7 km de long, c'est le joyau du complexe pétrolier iranien. 90% des exportations de brut du pays passent par là, tout simplement parce que c'est le seul endroit sur les côtes iraniennes où l'on a pu construire un terminal permettant d'accueillir les gros navires pétroliers. Donald Trump affirme que les frappes d'hier ont complètement détruit tous les postes militaires qui défendaient l'île, mais les bombardements auraient volontairement évité de toucher les infrastructures pétrolières. Par décence, dit le président américain, qui menace tout même de tout raser si Téhéran continue d'entraver la circulation du pétrole dans le détroit d'Ormuz. Frapper l'île de Karg pour les États-Unis pourrait aussi avoir été un moyen d'éviter que le régime iranien aux abois ne saborde ses propres installations pétrolières de peur qu'elles ne tombent entre les mains des Américains. Après tout, le jeune Donald Trump, dès 1988, avait déclaré dans une interview au quotidien Le Guardian que son pays devrait s'emparer de l'île pour punir, disait-il, la République islamique de son hostilité à l'Amérique.
Camille Magnard à Atlanta pour France Info. Et au 15e jour de cette guerre au Moyen-Orient, Donald Trump vient aussi d'affirmer ce matin que l'Iran est complètement vaincu et veut un accord. Il affirme aussi que la marine américaine va commencer très bientôt à escorter des pétroliers dans le détroit d'Ormuz. L'armée iranienne a répliqué en menaçant de réduire en cendres les infrastructures pétrolières liées aux États-Unis en cas d'attaque sur cette île de Karg. Et en Irak, une attaque a visé ce matin l'ambassade américaine à Bagdad dans le quartier diplomatique au cœur d'une zone ultra sécurisée. France Info, il est 6h03. C'est demain le premier tour des municipales. La campagne est suspendue pour une période de réserve qui doit permettre aux électeurs de se décider avant d'aller aux urnes demain. Près de 49 millions d'inscrits seront appelés à départager environ 900 000 candidats. En Nouvelle-Calédonie, on vote dès ce soir, 22h, heure de Paris. Il sera 8h du matin à Nouméa. Avec un nombre de bureaux de vote réduit au minimum à Nouméa, les 56 bureaux habituels sont regroupés en seulement 8 sites arrêtés. Été pris par le haut-commissaire de la République et une décision qui fait grincer des dents. Il y a un peu plus de 68 000 électeurs inscrits sur les listes à Nouméa. Ils ne voteront pas dans les écoles ou les bâtiments publics habituellement proches de leur domicile. Béatrice Duguay.
Les violences de mai 2024 ont endommagé, voire détruit des infrastructures et les travaux de remise en état ne sont pas terminés. C'est ce qui justifie cette organisation. Mais ça ne convainc pas totalement Karine David, professeure de droit public, spécialiste du droit constitutionnel de Nouvelle-Calédonie.
C'est la même organisation que celle de 2024 pour les élections européennes et législatives où les gens avaient été regroupés parce qu'on était en plein de la crise. Mais c'est vrai que là, la justification ne peut pas être la même qu'on était juste après les émeutes. Là, c'est plus le cas.
Un petit tiers des électeurs seraient concernés par ces regroupements de bureaux qui allongent surtout les temps de trajet pour aller voter. Plusieurs partis ont contesté cette organisation en justice parce que discriminatoire. Karine David les comprend.
Les bureaux de vote peuvent être éloignés de plusieurs kilomètres. Bah, pour certaines personnes, ça peut être effectivement extrêmement loin. Et la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de transport en commun. On est dimanche, il n'y a pas de bus. Donc ça crée une discrimination, notamment à l'égard des populations les plus défavorisées, notamment la population mélanésienne, qui n'ont pas de véhicule.
Le tribunal administratif a rejeté les demandes de suspension de l'arrêté du haut-commissaire. Aucune navette n'a par ailleurs été mise en place entre les quartiers éloignés et les bureaux de vote.
Béatrice Duguay. C'est une affaire digne d'une série télé que France Info a révélée il y a bientôt un an et demi, l'histoire de cette ancienne trésorière de Kiabi, arrêtée pour avoir détourné la somme colossale de 100 millions d'euros des comptes de l'enseigne de vêtements avant de partir s'installer en Floride. Kiabi tente depuis de récupérer les fonds et ce matin, nouveau rebondissement. Et c'est une information France Info. L'ex-trésorière est sortie de prison dans la plus grande discrétion il y a quelques semaines. Pierre de Cossette.
Elle aura passé 18 mois derrière les barreaux. Aurélie B, arrêtée à la descente d'un jet privé sur le tarmac de l'aéroport de Figari en Corse. Depuis, les enquêteurs cherchent à retrouver ceux qui l'ont aidé à blanchir les 100 millions d'euros disparus des caisses de Kiabi, passés par un compte en Allemagne, puis visiblement par la Turquie. Sur les 100 millions, la justice pense en avoir retrouvé une vingtaine, 20 millions de dollars, le prix d'une immense maison et de deux appartements achetés à Miami, où l'ex-trésorière de Kiabi était partie refaire sa vie dans le design et le luxe, des investissements réalisés via des sociétés écrans. Il y a 6 mois, son ancien compagnon, footballeur à la carrière modeste, a été mis en examen à son tour pour blanchiment. Aurélie B, elle, est désormais assignée à résidence sous bracelet électronique. Kiabi pourrait prochainement récupérer la vingtaine de millions de dollars issus de la vente des biens immobiliers en Floride. Pour les 80 autres, on en est encore loin.
Pierre de Cossette du service police-justice de France Info. Un détenu du centre pénitentiaire de Nanterre a profité hier après-midi d'une sortie au musée du Louvre pour s'évader. Un détenu de 25 ans, connu de la justice pour vol avec effraction et trafic de stupéfiants. Il a profité du trajet aller en transport en commun pour échapper vers 15h à la vigilance des surveillants qui encadraient cette sortie au RERA, à la station Aubert à Paris. Cette permission avait été accordée par un juge d'application des peines contre l'avis du directeur de la maison d'arrêt de Nanterre et du parquet. C'est un moment très attendu pour les centaines de milliers de pêcheurs amateurs en France. L'ouverture aujourd'hui de la pêche à la truite, mais aussi aux ombles et autres poissons de la famille des salmonidés. Mais cette année, comme l'an dernier, il est interdit de pêcher du saumon sauvage. Il vient se reproduire dans nos rivières, mais l'espèce est menacée d'extinction en France. Guillaume Fariol.
Dans le bassin de la Loire, par exemple, ils étaient plusieurs centaines de milliers de saumons à venir se reproduire au 19e siècle. Mais aujourd'hui...
On est sur la centaine d'individus maximum. Hein.
Aurore Bézès est directrice de l'association Loire Grand Migrateur qui suit les populations de saumons.
Le saumon atlantique, d'une manière générale, se porte mal, même très mal sur le bassin de la Loire. Donc c'est vraiment des tout petits effectifs.
Car le poisson souffre du réchauffement climatique, il ne survit pas dans les cours d'eau trop chauds. Et puis il y a les obstacles, barrages en tout genre, qui bloque son chemin pendant la migration.
Ce sont des seuils, hein, parfois pas très hauts, mais qui ne sont pas en capacité de franchir, qui posent des problèmes à la fois lorsqu'ils remontent la rivière pour aller se reproduire, mais aussi pour descendre quand ils retournent en mer, hein, pour aller grandir.
L'interdiction de la pêche au saumon est donc bienvenue pour cette spécialiste.
C'est un élément de plus pour lui donner une petite chance. Ce ne sera clairement pas suffisant.
Il faut aussi détruire au maximum tous les obstacles sur les cours d'eau, sinon Aurore Bézès prévient, l'espèce disparaîtra probablement de nos rivières.
Guillaume Fariol. Le football, Marseille conforte sa 3e place en Ligue 1 après sa victoire 1-0 sur Auxerre. C'était le match d'ouverture de la 26e journée. La suite aujourd'hui, le rugby avec le dernier match du tournoi Destination 2026 ce soir pour le 15 de France. Faute de grand chelem, c'est le match qui peut encore sauver la saison des Bleus s'ils gagnent malgré tout le tournoi dans un stade de France qui sera archi-comble. France-Angleterre, le 113e de l'histoire et en plus il fête ses 120 ans. Fête qui sera célébrée au Stade de France et le coup d'envoi, c'est à 21h10, match à suivre en direct sur France Info. La France est aussi 5e ce samedi matin au classement des nations aux Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina avec 11 médailles dont 4 en or. Le programme du jour, on y revient dans l'Infosport dans un peu plus d'une demi-heure tout à l'heure à 6h35 et tout de suite il est 6h09. Bonjour Sophie Briat.
Bonjour Jean-Christophe, bonjour à tous.
La première tendance météo de ce samedi avec ces pluies qui sont toujours là mais qui se décalent vers l'est.
Oui et s'étendent des Ardennes au pourtour méditerranéen jusqu'aux Pyrénées et le Pays Basque, avec des pluies plus marquées entre le Jura et le Var, pouvant prendre un caractère orageux près de la Méditerranée où Mistral et Tramontagne soufflent en rafale jusqu'à 60-70 km/h. La neige tombe des 500-700 mètres des Vosges aux Alpes, 900 mètres sur le Massif central et 800 mètres sur les Pyrénées. Partout ailleurs, le ciel alterne entre nuages et quelques éclaircies avec une belle luminosité de la Gironde au Pays de la Loire. Et vous l'avez remarqué, les températures sont en baisse, elles sont plus fraîches ce matin. Nous sommes en dessous des normales de saison. Il fait de 0 à 8 degrés sur la moitié nord, 3 à Brest et Lille, 4 à Paris. Sur le reste du pays, de 0 à 13, 3 à Aurillac, 8 à Bordeaux, 9 à Lyon et 13 degrés à Istres.
Sophie Briat, on se retrouve dans une vingtaine de minutes, juste avant 6h30.
France Info le week-end.
Le billet science.
Bonjour, c'est Bill François. Je vous retrouve tous les week-ends pour vous partager une nouvelle découverte sur le monde, vous raconter une merveille de la nature ou une avancée décisive de la science.
Tous les week-ends, retrouvez le billet science, les découvertes de Bill François, à 8h25 et 10h50 sur France Info.
Quelles options pour la France après la mort d'un militaire tué par un drone en Irak? On va entendre dans 3 minutes l'analyse de l'amiral Bernard Rogel, ancien chef d'état-major particulier des présidents François Hollande puis Emmanuel Macron. Et on va d'abord en Isère, à Vars, dans la commune, aujourd'hui en deuil, où vivait ce militaire tué en Irak.
France Info, 6h-7h, Jean-Christophe Martin.
Il est 6h10, le militaire français tué jeudi dans une attaque de drone en Irak était l'adjudant-chef Arnaud Frion, âgé de 42 ans. Il était affecté au 7e bataillon de chasseurs alpins basé à Vars, au sud de Grenoble. Ses frères d'armes sont en deuil, évidemment, comme la commune de 8000 habitants où il vivait, à Clé, en Isère. Sur place, pour France Info, Christophe Vincent.
Des drapeaux en berne sur la façade de la mairie et une immense tristesse sur les visages des habitants qui pleurent l'un des leurs comme Armande.
C'est triste pour tout le monde, même pour les gens qui ne connaissaient pas. Ce monsieur était à l'école ici déjà, des enfants à l'école du centre là. Bon, c'est un enfant de la commune, mais ça nous touche un peu de plus près. C'est la faute à pas de chance, c'était son heure comme on dit. C'est triste.
Arnaud Frion s'arrêtait souvent au tabac journaux. Mathieu, le buraliste, se souvient d'un homme discret.
Je l'avais en tant que client. J'ai d'autres militaires qui passent aussi dans mon commerce. Ils s'arrêtent régulièrement, soit à la boucherie, soit dans mon commerce. C'est des personnes très gentilles qui font marcher les commerces. C'est très triste pour lui, sa famille. Il faudrait arriver à marquer un peu plus le coup pour ces gens qui, malheureusement, perdent la vie pour la France.
Entre Grenoble et les flancs du Vercors, les adeptes des sports de plein air croisent souvent les chasseurs alpins qui s'entraînent. Témoignage de deux joggeuses et d'un cycliste.
Vu que je cours beaucoup, je les croise souvent, ouais, notamment au bord de l'autoroute qui courent ou en été qui soulèvent des sacs à dos avec des conditions pas toujours évidentes. On voit aussi parfois les camions sur l'autoroute, ça me touche.
On les voit partir, ils sont sur des groupes de 10, 15, 20 militaires et ils courent beaucoup et tôt le matin.
On sent leur présence et ça fait mal au cœur aujourd'hui de voir qu'un des leurs et un des nôtres surtout est décédé. C'est bouleversant, surtout.
Guillaume et Mathieu s'inquiètent pour les militaires français présents au Moyen-Orient.
C'est un mort pour la patrie dans une guerre qui n'est pas la nôtre, quoi. Puis ça fait quelque chose, ouais. Surtout les chasseurs alpins, c'est comme une fierté locale, quoi.
Tous les militaires et même les civils qui sont dans ces zones là-bas au Moyen-Orient peuvent être malheureusement touchés par un drone iranien ou autre. Je crois que le contexte est triste en ce moment, globalement. Si on s'implique trop dans le conflit, il risque d'y en avoir d'autres, hein, a priori.
Arnaud Frion mérite un hommage à hauteur de son engagement, disent les habitants de Clé qui souhaitent y être associés.
Christophe Vincent à Clé, en Isère, pour France Info, dans cette commune où vivait ce militaire français tué en Irak jeudi soir. Emmanuel Macron a depuis redit qu'en pleine guerre au Moyen-Orient, la posture de la France était purement défensive. Décryptage avec l'amiral Bernard Rogel, ancien chef d'état-major particulier de François Hollande puis d'Emmanuel Macron.
La perte d'un camarade est toujours une épreuve terrible pour la grande famille des militaires, mais elle ne peut ni ne doit entamer la détermination à remplir les missions. C'est une zone de conflit depuis longtemps, cette zone irakienne. On connaît les risques qui sont portés par nos militaires dans cette région. Donc je crois que la guerre, c'est à la fois une affaire de détermination et une affaire d'humilité.
Mais on peut rester, sans répliquer devant la mort d'un soldat français quand on est militaire?
C'est un peu terrible ce que je vais dire, mais il faut prendre beaucoup de recul. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans le piège qui est tendu, qui est celui de la provocation. Je crois que ce qu'a dit le porte-parole du ministère des Armées est très juste. Il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé. On a un terme chez les militaires qui s'appelle le retex, le retour d'expérience. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce qui s'est passé, qui a frappé, parce que c'est quand même pas très clair encore, même si...
On a un groupe pro-iranien qui revendique cette attaque, mais effectivement, oui, voilà, il faut rester très prudent.
La revendication est, d'après ce que j'en ai lu, en tout cas, est un peu molle. Est-ce que c'est une revendication d'opportunité? Est-ce que c'est vraiment eux qui ont fait le coup? Ce qui est certain, c'est que ce groupe qui a menacé les intérêts français, le Hachab Al-Kaf, au niveau des milices... des milices
le nom de ce groupe pro-iranien, je précise pour les auditeurs.
Oui, au niveau des milices chiites iraniennes, c'est un groupuscule. Vous savez que tous ces combattants chiites s'étaient regroupés au moment de l'attaque de l'État islamique sur l'Irak sous le terme « mobilisation populaire », qui d'ailleurs ne reprenait pas que des milices chiites, mais avait aussi des milices chrétiennes. Mais c'est près de 100 000 hommes, c'est même probablement plus que ça. Toutes ces milices sous influence iranienne.
Mais ça signifie que vous comprenez la prudence du chef de l'État, qui a parlé d'une attaque inacceptable, mais qui reste dans cette phase défensive. Vous comprenez finalement les propos tenus par le président de la République ?
Ah, je les comprends tout à fait. C'est jamais bon de réagir sous le sceau de la colère, qui est le premier sentiment qu'on a quand on perd des camarades au combat. Mais il ne faut pas que l'émotion l'emporte sur la raison. Donc je crois que la première chose à faire, c'est d'abord reconfirmer. Il ne faut pas tomber dans le piège de l'ennemi, si vous voulez. Donc il faut reconfirmer les missions qui ont été prises. Et ensuite, avec ce fameux retour d'expérience, cette analyse de ce qui s'est passé, là, on verra, ils verront, ce qu'il convient de faire. Je pense que ça ne changera pas l'économie générale des opérations lancées par la France, mais ça peut avoir des répercussions locales en termes de protection, et puis peut-être, si on est sûr de qui a fait le coup, des mesures de rétorsion locales.
Ce qui est sûr, c'est qu'on sait que le président de la République s'est entretenu avec le premier ministre irakien qui lui a promis d'intervenir pour essayer de contrôler, j'allais dire, ces groupes pro-iraniens. Question à Amiral, c'est combien de soldats français sont dans cette région et quelle est leur mission ? C'est une mission de lutte contre le terrorisme avant tout ?
Ah oui. Alors, le nombre, on le donne jamais, puisque c'est pour partie des forces spéciales. Il n'y a pas que des forces spéciales. Il y a des forces d'instruction dont faisait partie ce détachement du 7e BCA. Mais c'est une mission, ce qu'il faut bien comprendre, le paradoxe, c'est que c'est une mission qui n'a rien à voir avec la situation actuelle. C'est une mission qui est conduite depuis 2015 par nos troupes. On a de la reprise de Mossoul par l'État irakien devant l'État islamique. On formait à l'époque, avec des soldats français, la fameuse division d'or, la division d'élite irakienne qui a repris Mossoul, et la première division d'infanterie qui protégeait Bagdad. Donc, c'est une mission qui est ancrée dans le temps et qui n'a quasiment rien à voir avec la situation actuelle. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que l'État islamique, c'est aussi l'ennemi des milices sous obédience iranienne en Irak. Alors, est-ce que c'est lié à la présence chez les Kurdes de nos détachements ? Puisque vous savez que depuis quelques jours, les États-Unis parlent beaucoup des milices kurdes. Est-ce que c'est ça qui a déclenché ? C'est difficile à dire pour l'instant. Je crois qu'il faut, encore une fois, pas tomber trop dans l'émotion, même si c'est une épreuve difficile. Et puis regarder ça avec beaucoup de raison pour comprendre tous les tenants et aboutissants.
L'amiral Bernard Rogel, ancien chef d'état-major particulier de François Hollande, puis d'Emmanuel Macron, il répondait sur France Info à Renaud Blanc. Il est 6h18. Dans deux minutes, on va voir comment les géants du commerce en ligne contournent déjà la nouvelle taxe sur les petits colis. D'abord, le tour dans l'info de ce samedi matin.
BMW. 3 notifications, 10 postes, 5 alertes. Et pourtant, vous n'allez retenir qu'une seule chose. Votre BMW Finition M-Sport a un loyer exceptionnel et sans aucun apport. Jusqu'au 31 mars, pendant les jours M-Sport, prenez le volant de votre BMW dès 290€ par mois, sans apport.
Offre valable pour une BMW 1 16M Sport Design. LLD 39 mois, 30 000 km. Réservé aux particuliers si accord BMW Finance. Conditions sur bmw.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
France Info. 6h-7h.
L'essentiel de l'actualité à 6h19, c'est avec Diane Ferchit. Bonjour Diane.
Bonjour à tous.
Le premier titre de ce samedi sur France Info, Washington envoie des renforts au Moyen-Orient.
Des troupes du corps des marines et des navires supplémentaires. La marine américaine qui doit bientôt commencer à escorter les pétroliers dans le détroit d'Ormuz, alors que Donald Trump menace d'anéantir les infrastructures pétrolières de l'île iranienne de Karg. Elle est située dans le Golfe. Et c'est le plus grand terminal d'exportation de pétrole brut d'Iran. En réaction, l'Iran menace, lui, en cas d'attaque sur Kerch de réduire en cendres les infrastructures pétrolières liées aux États-Unis. Ce matin, le président américain affirme que l'Iran est complètement vaincu et veut un accord. Et Israël poursuit ses frappes sur le Liban et s'apprête à mener de nouvelles opérations militaires dans le nord-ouest de l'Iran. Israël qui demande ce matin aux habitants de certains quartiers de la ville iranienne de Tabriz d'évacuer. En France, elle est suspectée d'avoir détourné 100 millions d'euros des caisses du groupe Kiabi. L'ancienne trésorière de l'entreprise de prêt-à-porter a été remise en liberté sous bracelet électronique. C'est une information France Info. Elle a passé un an et demi en détention provisoire après avoir été arrêtée en Corse en août 2024. C'est la troisième victoire d'affilée pour l'OM en Ligue 1 de foot. Les Marseillais vainqueurs à domicile d'Auxerre 1-0. Ils confortent leur troisième place au classement.
France Info. Mais où sont passés les avions cargo asiatiques ? Aéroport de Paris annonce à France Info une baisse significative du nombre des vols de ces gros avions chaque semaine. Il y en a une cinquantaine en moins. La conséquence de l'entrée en vigueur début mars en France de la taxe de 2 euros sur les petits colis. Ça devait freiner, ralentir l'afflux des produits Chine ou Temu selon le gouvernement. Mais à peine deux semaines après sa mise en application, eh bien cette mesure montre ses premières limites, Thomas Vinclair.
La faute à des droits de douane pas encore totalement homogènes partout en Europe et les géants du e-commerce chinois l'ont bien compris. Désormais, les avions cargo remplis de produits Chine et Temu atterrissent à l'aéroport de Liège en Belgique ou à celui d'Amsterdam Schiphol aux Pays-Bas. Des aéroports espagnols ont aussi vu affluer ces derniers jours plus de gros porteurs. À chaque fois, des camions les attendent à l'atterrissage. On décharge les avions, on charge les poids lourds, puis direction la France par la route, donc pas de taxes. À Bercy, on explique que ça reste un coût financier porté à ces entreprises. Elles ont dû réorganiser toute leur logistique, un coût non négligeable et surtout, elles font face à la hausse des prix du carburant.
Alors cette baisse de trafic des avions cargo, elle pourrait aussi avoir des conséquences plus sérieuses, Thomas, puisqu'un aéroport français est notamment menacé de fermeture.
Oui, à Bussy-Lettré, 330 habitants, son épicerie, son maraîcher et donc son aéroport, le XCR Airport. Avec ses 3860 mètres, sa piste est l'une des plus longues d'Europe, idéale pour les gros porteurs. Située dans le département de la Marne, entre Reims et Troyes, à 2 heures de route de Paris, cet aéroport réalise 90% de son chiffre d'affaires grâce au fret aérien du e-commerce chinois. Mais ça, c'était avant la taxe sur les petits colis.
J'ai toujours considéré que c'était une taxe stupide.
Jean-Marc Rose est le président du département de la Marne.
On a un gros client qui est hongkongais qui nous a expliqué que si la taxe était maintenue sur les petits colis, les gens fretteraient leurs avions pour aller sur d'autres pays où la taxe n'est pas appliquée. C'est une mention déguisée de dire qu'on veut empêcher le e-commerce, mais c'est ridicule. Le marché est mondial, on ne va pas aller empêcher les habitudes par des taxes, c'est complètement stupide.
L'élu ne comprend toujours pas pourquoi le gouvernement a voulu aller plus vite que les autres pays européens.
Les clients qui vont prendre l'habitude d'aller se poser ailleurs, eh bien, ils ne retourneront pas se poser en France. Parce qu'une fois que les habitudes sont prises, ils ne se corrigent pas toujours.
Et une fermeture de l'aéroport, ça serait 100 à 120 emplois directs en moins dans cette zone rurale.
Je parle des pertes d'emplois directes sur l'aéroport, mais il pourrait y en avoir aussi indirectement sur une zone en plus qui emploie 1400 personnes en logistique. Là aussi, il y aura des effets secondaires. On a un bureau douane H24, eux, ils fermeront aussi, etc., etc. Enfin, quand vous retirez des millions de tonnes de fret, vous allez avoir forcément des milliers d'emplois en moins. Je veux dire, il y aura des conséquences collatérales importantes.
À Bercy, on explique vouloir accompagner ces sociétés, ces salariés touchés de plein fouet par les conséquences de cette nouvelle taxe. Mais Serge Papin, le ministre du Commerce, l'a redit cette semaine, il n'y aura pas de retour en arrière et il rappelle qu'une harmonisation des législations européennes est attendue d'ici au mois de novembre.
Thomas Vinclair, tout de suite à 6h23, les experts cinéma de France Info, les sorties de la semaine, Matteo Mastracci avec Benjamin Fontaine.
Gilles Lelouch, Laetitia Casta, Jérémy Ferrari ou encore Fabrice Luchini sont dans les salles de cinéma cette semaine. Qui faut-il aller voir ? Eh bien, notre expert cinéma va nous éclairer comme chaque semaine. Bonjour Matteo Maestracci.
Bonjour Benjamin.
Vous avez retenu deux films. Le premier, c'est Planète, un film d'animation réalisé par une franco-japonaise, Momoko Seto.
Et on va demander à nos auditeurs un effort d'imagination, un peu plus que d'habitude, puisque si Planète est une vraie prouesse esthétique et sonore, il ne s'appuie sur aucune voix, ni dialogue, ni commentaire. Il raconte les aventures de quatre akens de pissenlit. Vous savez, ces petites graines blanches qui se détachent quand on souffle dessus, les enfants, mais pas seulement. Il fallait y penser. L'idée est assez formidable, très originale, évidemment. Nos quatre végétaux survivent, en fait, au début du film, à des chutes de météorites sur Terre et vont dériver dans le cosmos à la recherche d'un sol accueillant et viable pour s'installer et se reproduire. Tourné dans de vrais décors naturels de la Bretagne au Japon, avec plusieurs animaux ou insectes filmés en prise de vue réelle et des technologies différentes, Planète est aussi une manière forcément originale de raconter les menaces qui pèsent sur notre environnement. Momoko Seto.
Je ne fais pas de militantisme écologique dans le sens où je vais pas manifester, je vais pas écrire des tracts, mais ce qui m'intéressait ici, c'est de dire que si on changeait de regard à un autre organe que l'humain, et si on mettait une caméra dans un autre vivant que nous, des plantes par exemple, pour voir ce que eux, ils perçoivent de l'environnement. Les graines de pissenlit, elles font la même chose que nous. C'est-à-dire qu'elles cherchent aussi un endroit pour habiter, un endroit pour exister. Et cette juxtaposition que l'humain peut enfin faire à travers mon film, c'est déjà un changement. On va voir le sol autrement, on va voir les limaces autrement, on va voir toutes ces plantes qui nous entourent. Les humains, ils ont cette grande capacité de ne pas voir les arbres qui sont à côté de nous. Ils vont voir les éléphants, ils vont voir les choses, mais les plantes sont presque inexistantes. Mais on a besoin d'eux. Et ce sentiment d'autre chose et de l'émotion qu'on reçoit, pour moi, elle est plus forte que d'expliquer quelque chose.
Et on espère que Planète va séduire le plus grand nombre, adultes, enfants, scolaires ou familles. On lui souhaite le même succès que Flo, hein. Vous vous souvenez, cette fable autour d'un chat, saluée par 750 000 spectateurs en France, hein, sortie en 2024, et puis un Oscar, entre autres.
Autre sortie de la semaine qui vous a plu, Mathéo, Le crime du troisième étage de Rémy Besançon. Rémy Besançon, on lui doit notamment Le premier jour du reste de ta vie. Cette fois, il signe une comédie aux allures de polar avec Laetitia Casta et Gilles Lelouch.
Et Guillaume Gallienne, dans le rôle d'un comédien de théâtre que notre couple, qui vit dans l'immeuble d'en face, va soupçonner un jour d'avoir tué sa femme après une violente dispute, soit peu ou prou le même synopsis que le chef-d'œuvre Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. C'est tout sauf anodin. Le maître du suspense est régulièrement cité dans le film, souvent d'ailleurs de manière directe, avec une surprise que je ne vais pas révéler ici. Ah. Mais c'est une comédie joyeuse qui fait aussi un peu frissonner parfois. En tout cas, c'est un mélange des genres qui a ravi Laetitia Casta.
Ou ne pas.
Hamlet en plus. Ça va durer au moins 2 heures, ça.
3h45.
Sur quoi ?
Quand, comment dire, tout est formaté, ça l'est de plus en plus, je trouve, de sortir un petit peu du cadre, proposer aux spectateurs quelque chose d'un peu innovant, jouer avec les genres, avec humour, parler des références du cinéma. Enfin, c'est. Voilà, c'est un joli moment de cinéma. C'est prendre le spectateur au jeu. L'incorporer dans le film. Moi, à la lecture du scénario, j'ai eu énormément de plaisir à le lire et je suis rentrée vraiment comme spectatrice et non pas comme une professionnelle qui regarde un rôle et qui voilà, essaye de se projeter dans le film. J'étais totalement dedans et totalement séduite.
J'ai l'impression que vous regardez chez moi.
Ah mais non, mais pas du tout. C'est ouais. Quoi ça?
Bah, c'était ma mission, trouver des lunettes avec caméra intégrée.
C'est ridicule.
Frais et rythmé, sans prétention, assez charmant, Le crime du troisième étage est un divertissement printanier idéal. Si vous êtes un grand fan de Fabrice Luchini, vous devriez adorer, peut-être moins les autres, Victor comme tout le monde de Pascal Bonitzer, dans lequel il joue un acteur qui déclame du Victor Hugo, soit plus ou moins lui-même. C'est moyen, mais le comédien est parfois émouvant et je vous conseille plutôt deux films étrangers également sortis mercredi. Ce qu'il reste de nous, de Cherienne Dabis, qui raconte trois générations d'une famille palestinienne des années 1940 à nos jours. Et puis la traque de Méral de Stijn Bouma sur une histoire vraie de fraude aux prestations sociales aux Pays-Bas.
Merci beaucoup Mathieu. Vous parliez des Oscars tout à l'heure. Les Oscars, c'est demain soir, dans la nuit de dimanche à lundi pour être précis. On a deux films d'animation français en lice, notamment Arco et Amélie et la métaphysique des tubes. Signe de la bonne santé de l'animation en France, on suivra évidemment les résultats avec vous sur France Info.
Les experts cinéma de France Info, Matteo Maestracci avec Benjamin Fontaine. Tout de suite, la météo avant le journal à 6h30.
Et vous, la Mini Cooper, vous l'aimez pourquoi ? Sa conduite, son look so British ?
Avec une dose de style et d'innovation en plus, la Mini Cooper électrique reste plus iconique que jamais. Rouler dans une icône, ça n'a pas de prix, surtout à ce prix-là. Profitez de la Mini Cooper E-Finition Blackyard des 320 euros par mois. Premier loyer de 320 euros après déduction de la prime C2E de 345 euros. LLD 48 mois, 40 000 km. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 mars 2026. Si accord BMW Finance selon stock disponible. Conditions sur mini.fr. Pensez à covoiturer.
France Info Météo, avec CIC, la facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur cic.fr.
La météo à 6h29 sur France Info avec Sophie Bria, avec un cocktail ce matin, Sophie. Oui. La pluie et la neige, mais pas au même endroit.
Non, ça c'est clair. La limite pluie-neige s'abaisse souvent sous les 1000 mètres. Hein, ce matin, temporairement jusqu'à 500 mètres, même des Vosges aux Alpes du Nord, avec 15 à 20 cm attendus vers 1500 mètres sur le massif alpin. Sur le massif central, il neige dès 900 mètres et dans les Pyrénées à partir de 800 mètres. Et la perturbation pluvieuse concerne le Grand Est jusqu'à la Méditerranée, l'Occitanie jusqu'aux Landes et le Pays Basque. Et les pluies sont plus soutenues du Jura au Var ce matin et jusqu'à la Corse cet après-midi. À l'ouest, le temps est plus calme mais reste couvert avec quelques éclaircies. Et de la Gironde au Morbihan, le soleil est beaucoup plus présent et vous l'avez remarqué, les températures ont bien baissé. Ce matin, il fait de 0 à 13 sur le pays, cet après-midi de 7 à 17 degrés.
Sophie Bria, merci d'écouter France Info. Il est 6h30.
France Info. Jean-Christophe Martin.
Au 15e jour de la guerre au Moyen-Orient, Donald Trump vient d'affirmer que l'Iran est complètement vaincu et veut un accord. Après avoir annoncé des frappes sur les installations militaires du terminal pétrolier de Karg, le président américain menace d'en anéantir cette fois les infrastructures pétrolières. Il affirme aussi que la marine américaine va commencer très bientôt à escorter des pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Au Liban, une frappe israélienne sur un centre de santé dans le sud du pays a tué au moins 12 membres du personnel médical selon le ministère libanais de la Santé. Le Liban, où le désarmement des islamistes du Hezbollah allié de Téhéran est l'une des conditions de l'État hébreu pour mettre fin à son opération militaire. Hier, des avions israéliens ont largué sur Beyrouth des milliers de tracts pour demander aux Libanais de pousser le parti chiite à rendre les armes. À Beyrouth, pour France Info, Valérie Crova.
Le gouvernement libanais a beau avoir déclaré illégal les activités militaires du Hezbollah, le parti de Dieu, n'a toujours pas déposé les armes. La faute à l'actuel gouvernement libanais, s'en porte Jamil El-Sayed, ce député qui se présente comme indépendant et proche du parti chiite.
Où est le plan? Je dis un plan. Le plan, une partie de ce plan, c'est d'intégrer ces armes. Je ne dis pas désarmement parce que c'est humiliant. Je dis à l'intégration du Hezbollah au sein de l'armée, pour renforcer l'armée libanaise.
Renforcer l'armée libanaise et ses 75 000 hommes. Son commandant en chef, le général Ekal, refuse d'employer la manière forte pour désarmer la milice, sous peine de créer des tensions au sein de l'institution militaire qui compte 30% de musulmans chiites. Pierre Bouissa est membre des forces libanaises.
Ça fait des années qu'on a cette idée qu'il faut éviter de faire face au Hezbollah pour éviter la guerre civile. L'État a démissionné. Et le résultat est ce que nous voyons aujourd'hui. Et c'était une fatalité.
Impuissante face au rouleau compresseur israélien. Et le Hezbollah qui a opté pour la surenchère et entraîné tout un pays dans une nouvelle guerre. L'armée du pays du Cèdre, censée faire preuve de plus de fermeté à son égard, se retrouve aujourd'hui dans une impasse.
Reportage à Beyrouth signé Valérie Crova avec Étienne Monin, les envoyés spéciaux de France Info au Liban. Il est 6h32, c'est demain le premier tour des municipales. La campagne est suspendue pour une période de réserve qui doit permettre aux électeurs de se décider avant d'aller aux urnes demain. Deux nouveaux suspects ont été mis en examen hier pour association de malfaiteurs deux semaines après qu'une tête de cochon a été retrouvée devant le domicile de Christian Estrosi, le maire de Nice. Ils sont soupçonnés d'avoir été en lien avec les deux autres hommes déjà écroués, Philippe Père.
Et en particulier avec l'expert informatique soupçonné d'avoir joué un rôle central dans cette affaire. Ils l'ont rencontré plusieurs fois en février pour parler des réseaux sociaux dans la campagne électorale du maire sortant. Et l'enquête montre que le premier mis en cause, un spécialiste en marketing digital de 45 ans et proche du couple Estrosi, a joué un rôle d'interface entre l'équipe de campagne et l'informaticien et qu'il a échangé avec lui des messages quelques heures seulement avant la découverte de la tête de porc. Lui nie toute participation aux faits qui lui sont reprochés, tout comme l'autre mise en cause, un ancien agent du contre-espionnage de 79 ans, qui ne reconnaît qu'une chose, avoir recruté le principal suspect pour la campagne. À ce stade, rien ne laisse penser que d'autres personnes sont impliquées, selon le parquet qui précise que Christian Estrosi, lui, déjà entendu la semaine dernière, sera de nouveau bientôt interrogé comme témoin.
Philippe Père du service police-justice de France Info. Et c'est la fin des espoirs industriels pour le groupe Brandt en liquidation. Depuis décembre, la justice n'a retenu aucune des offres de reprise. Seules les marques comme Dietrich Sauter et Vedette et les stocks de Brandt sont repris par le groupe CAFOM, distributeur d'équipements de la maison dans les Outre-mer, qui propose 18,5 millions d'euros pour acquérir les marques, les usines et principalement les dizaines de milliers de produits en stock et les pièces détachées de Brandt. Vous écoutez France Info, il est 6h34. Et c'est l'heure du sport.
France Info Sport avec le Schneider Electric Marathon de Paris. Courons ensemble vers un avenir plus propre.
Le rugby d'abord avec le match du tournoi Destination 2026 ce soir pour le 15 de France. Dernier match de ce tournoi. Faute de grand chelem, c'est celui qui peut encore sauver la saison des Bleus de Fabien Galthié. S'il gagne malgré tout le tournoi, ce sera dans un stade de France de toute façon archi-comble. C'est aussi un match particulier avec la célébration ce soir des 120 ans des duels France-Angleterre, les fameux crunch. Fanny Lechevestrier.
Hungry for a crunch.
Le crunch, c'est ce mot qui fait briller les yeux de tous les joueurs. Et cela n'a rien à voir avec une célèbre barre chocolatée qui croustille sous la dent, nous explique le deuxième ligne des Bleus, Emmanuel Méafou.
En vrai, de jouer en des Anglais et de battre des Anglais, c'est toujours un plaisir.
Une rencontre à part qui jalonne l'histoire du rugby international, souligne encore William Servat, l'ancien talonneur du 15 tricolore, aujourd'hui entraîneur des avants de l'équipe de France.
J'ai la chance d'en jouer. C'est pas des rencontres sur lesquelles on est habitué à jouer parce que ce sont des matchs de haut niveau sur des derniers matchs de tournoi, des moments importants en 2004.
Et je finis dans le fermé qui t'a pas suivi.
Oh que c'est bien joué,
qui est en train de nous faire.
Ce jour-là, déjà lors de la dernière rencontre du tournoi, les Bleus, avec un très grand Dimitri Yachvili, allaient chercher le grand chelem au Stade de France. Tout sauf un hasard, ce France-Angleterre était aussi la première diffusion d'un match du tournoi en soirée. Cette année encore, le crunch va battre des records de recettes de billetterie.
Des rencontres contre les Anglais sont toujours des matchs qui donnent quand même une image fantastique à notre sport. C'est aussi pour ça qu'il y a autant de monde qui est intéressé par ce match.
Une cérémonie avant le coup d'envoi ce soir rappellera d'ailleurs les meilleurs moments de ces 120 temps d'histoire. Mais attention de ne pas se tromper d'enjeu, rappelle le capitaine Antoine Dupont. Malgré un beau maillot arboré pour célébrer l'événement, c'est bien le tournoi 2026 qui se joue.
Le contexte des 120 ans, ça rajoute une saveur un peu particulière, mais au-delà des tenues, il faudra surtout qu'on ait le comportement adéquat. Si on remporte le tournoi, on oubliera beaucoup de choses de ce qui s'est passé avant, que ce soit le bon début ou le match raté à Édimbourg. Pour moi, ça reste incroyable de pouvoir le remporter.
Avec à la clé même un doublé, une deuxième victoire d'affilée dans le tournoi, ce qui n'est plus arrivé au 15 de France depuis 20 ans. Mais là encore, les Bleus se montrent méfiants face à des Anglais, certes battus déjà trois fois cette année, mais qui ne rêvent que d'une chose, gâcher la fête, avertit le centre Pierre-Louis Barassi.
Effectivement, on tombe sur une équipe blessée. Finir de la meilleure des manières pour eux, ce serait justement de nous empêcher de gagner ce Six Nations.
Clin d'œil de l'histoire, le dernier succès du 15 de la Rose au Stade de France remonte à il y a tout juste 10 ans.
France-Angleterre, le 113e de l'histoire, est à vivre en direct sur France Info et avec Fanny Lechevestrier qu'on vient d'entendre à partir de 21h10. Un podcast aussi à ne pas manquer, le Crunch et ses légendes de Vincent Pellegrini et Guy Accoceberry, le consultant rugby de France Info, à retrouver sur l'appli Radio France. Il est 6h37, la France est 5e ce samedi matin au classement des nations aux Jeux Paralympiques d'hiver de Milan Cortina avec 11 médailles dont 4 en or et de nouveaux espoirs aujourd'hui dans le slalom femme avec Aurélie Richard et dans le relais en paraski de fond. Les Bleus sont montés sur le podium dans les 3 dernières éditions de ces Jeux Paralympiques d'hiver. Cette année, les 3 relayeurs ont montré qu'ils sont en forme sur les skis, notamment Benjamin Davier en bronze sur le sprint et Karl Tabouret en or sur le 10 km. Anthony Chalençon et son guide Florian Michelon complètent cette équipe. L'entraîneur Vincent Duchesne veut s'appuyer sur les médaillés pour aller chercher cette fois encore un podium.
Benjamin et Karl, ils vont pas être à 100%, ils vont être à 1000% pour donner cette médaille à Flo et Anto qui la méritent avec eux. Et puis, c'est une bande de potes, ils sont capables de tout, donc même les Chinois, on ne sait jamais. C'est possible d'aller les chercher demain, on va voir, on va croiser les doigts.
Sur le relais, il y a vraiment cet esprit d'équipe qui est très très important.
Ah, j'ai envie de dire, le relais, c'est ce qui a construit l'équipe paranordique en e-sport. À Sochi, avec Benjamin et Thomas Clarion et son guide Julien Bourlat, Et sans cette première médaille à Sochi, je pense que ça n'aurait pas été pareil jusque-là. Donc ça tient à cœur. Après, ils ont été champions paralympiques à Pyeongchang. Ils ont été vice-champions à Pékin. Donc je pense qu'on va tous être très, très, très stressés, mais ça va aller fort.
Comment justement on prépare ce relais quand on a autant de pression? Effectivement, trois jeux, trois courses, trois médailles à chaque fois sur ce relais.
C'est aussi une force. On sait qu'on joue devant, donc il faut se mettre la pression parce que c'est important d'avoir de la pression. Mais après, il ne faut pas non plus se laisser aller par les émotions. Et moi, mon rôle, ça va être de vraiment trouver les bons mots ce soir et demain matin avant le départ pour qu'ils soient remontés à bloc et qu'ils fassent la course de leur vie.
C'est quoi les bons mots?
Pour l'instant, je cherche encore, mais je vais les trouver, ne vous inquiétez pas.
Mais très clairement, la concurrence, elle est là, les Chinois, les Ukrainiens, les Allemands.
Oui, de toute façon, c'est du sport de haut niveau. Et là, il y a certaines équipes qui sont très, très fortes. Il y en a qui passent aussi un peu à côté. Donc voilà, tout est possible. Ça va être encore des belles courses où il y aura, je pense, pas beaucoup d'écart quand même à l'arrivée pour certaines équipes.
L'entraîneur de l'équipe de paraski de fond, Vincent Duchesne, avec Clara Lecoq-Réal. Épreuve à vivre en direct sur France Info à partir de 11h15. Dans les prochaines minutes, le choix de France Info avec une initiative de l'aéroport de Marseille-Provence qui remet désormais au SAMU social les aliments ou les liquides interdits confisqués dans les avions. Et on est d'abord avec le correspondant de France Info à Atlanta pour s'interroger sur la stratégie de Donald Trump au 15e jour de la guerre au Moyen-Orient.
France Info, 6h-7h, Jean-Christophe Martin.
Il est 7h-20, la guerre en Iran n'est décidément pas terminée, malgré ce que Donald Trump avait pu suggérer en début de semaine. Désormais, il prévient que le régime iranien et ce qu'il reste de son armée vont être frappés encore plus fort la semaine prochaine. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Vous êtes l'un des correspondants de France Info aux États-Unis. À Atlanta, l'armée américaine déploie d'ailleurs toujours plus de soldats et de navires militaires au Moyen-Orient.
Oui, c'est ça. Trois navires de guerre du groupe amphibie USS Tripoli, d'ordinaire basé au Japon, et qui font route vers le Moyen-Orient avec plusieurs milliers de soldats américains à leur bord, qui vont s'ajouter donc aux quelques 50 000 GIs déjà engagés dans ce conflit depuis maintenant deux semaines. Car Donald Trump l'a annoncé hier sur la radio de Fox News, la semaine qui démarre verra encore une intensification des frappes américaines sur l'Iran.
Pour le moment, on se concentre sur leur capacité de missiles et de drones. Leurs tirs de missiles sont réduits à peau de chagrin comparé à ce qu'ils tiraient au départ. Leurs drones sont très mal aussi parce que nous ciblons les usines où ils les fabriquent à la chaîne.
Alors je l'ai dit, les nouveaux moyens déployés, ce sont des forces dites amphibies qui comptent des avions, mais aussi des unités capables de mener des missions au sol. Le Pentagone refuse à ce stade de dire si ce type de mission est envisagé en Iran.
Reste aussi la question, Camille, de la durée de cette opération militaire américaine que Donald Trump aime à qualifier de « courte excursion », mais là aussi son discours a un peu changé.
Des inflexions, oui, qui laissent entendre que Donald Trump a revu ses ambitions de terrasser le régime iranien en quelques semaines. Au début de la guerre, il appelait le peuple iranien à descendre dans la rue pour renverser ses dirigeants. Hier, sur Fox News Radio, il les appelait plutôt à la patience.
Le moment viendra, mais ça ne sera probablement pas dans l'immédiat. Il y a des gens avec des mitrailleuses dans les rues qui abattent tous ceux qui veulent manifester. Ce n'est pas rien dans ces conditions de vouloir s'opposer au régime, je peux le comprendre.
L'arrivée de nouvelles forces américaines laisse plutôt donc penser à une guerre d'usure contre les régimes iraniens qui montrent des capacités de résistance. Le temps, semble dire Donald Trump, est sa meilleure arme.
Le temps va passer, le régime sera de plus en plus affaibli. On a des stocks de munitions illimités. On peut se battre comme ça sans fin.
Mais le président américain n'est pas à une contradiction près. Interrogé sur l'économie américaine affaiblie par les conséquences de la guerre, il assure qu'il pense que ça ne va plus durer longtemps, que l'économie s'en remettra très vite. Et quand saurez-vous que la guerre est finie? Lui demande le journaliste de Fox. Je le sentirai dans mes os, répond Donald Trump.
Camille Magnard, l'un des correspondants de France Info aux États-Unis. Dans un instant, le choix de France Info avec une initiative de l'aéroport de Marseille-Provence pour remettre les produits confisqués dans les avions au SAMU social. Et d'abord, le tour de l'info en une minute.
Je veux créer mon entreprise.
Va au salon de la franchise.
Quelle est la bonne idée pour me lancer?
Va au salon de la franchise.
Et avec mon budget?
Oui, va au salon de la franchise. Plus de 470 idées de création d'entreprise pour tous les budgets et tous les conseils pour se lancer. À Paris, porte de Versailles, du 14 au 16 mars. Toutes les infos sur franchiseparis.com.
Et vous, la Mini Cooper, vous l'aimez pourquoi? Sa conduite? Son look so British? Avec une dose de style et d'innovation en plus, la Mini Cooper électrique reste plus iconique que jamais. Rouler dans une icône, ça n'a pas de prix, surtout à ce prix-là. Profitez de la Mini Cooper E finition Blackyard des 320€ par mois. Premier loyer de 320€ après déduction de la prime C2E de 345€. LLD 48 mois, 40 000 km. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 mars 2026. Si accord BMW Finance selon stock disponible. Conditions sur mini.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
France Info. 6h-7h.
L'essentiel de l'actualité à 7h moins le quart, c'est avec Diane Ferchit et le premier titre. Diane, Donald Trump affirme ce matin que l'Iran est complètement vaincu.
Selon le président américain, Téhéran veut un accord alors que les menaces de ces dernières heures se concentrent sur l'île de Karg. L'île iranienne est le plus grand terminal d'exportation de pétrole brut iranien. Donald Trump a menacé d'y anéantir les infrastructures pétrolières de l'Iran en y menant des bombardements. L'Iran assure qu'aucune de ces infrastructures n'a été endommagée et menace à son tour de réduire en cendres les infrastructures pétrolières liées aux États-Unis. Israël, de son côté, demande ce matin aux habitants de certains quartiers de Tabriz dans le nord-ouest iranien d'évacuer, et ce en prévision d'opérations militaires qui doivent avoir lieu dans les prochaines heures. Il a profité d'une sortie au Louvre pour s'évader en sortant du RER. Un détenu du centre pénitentiaire de Nanterre a échappé à la vigilance de ses surveillants hier, connu de la justice pour des faits de vol et de trafic de stupéfiants. Il était libérable en 2028. La permission de sortie accordée par un juge d'application des peines l'avait été contre l'avis du directeur de la maison d'arrêt. Les Bleus peuvent encore remporter la compétition. Dernier match du tournoi Destination. Ce soir, le 15 de France fait face à l'Angleterre au Stade de France. En cas de victoire, les Français remporteraient le tournoi pour la deuxième fois de suite. Début de cette rencontre, ce sera à 21h10.
France Info.
Transformer des déchets en dons aux plus précaires, une initiative de l'aéroport de Marseille-Provence. Les produits confisqués aux passagers dans les contrôles de sécurité ne sont plus systématiquement jetés à la poubelle. Et c'est ce matin le choix de France Info. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour.
Les liquides, les aliments interdits dans les cabines des avions sont donc désormais confiés au SAMU social de la ville pour être redistribués aux personnes en situation de grande précarité.
C'est un passage obligé avant de prendre l'avion, le contrôle de sécurité.
Madame, bonjour, produits liquides.
Bonjour, monsieur, si vous avez des crèmes, des gels, des parfums, il faut les mettre dans les pochettes.
Tous les produits liquides de plus de 100 ml sont confisqués et jusqu'ici, boissons, conserves, gels douche, crèmes étaient détruits.
On s'est rendu compte à quel point c'était effectivement du gaspillage.
Donia Jolie, responsable innovation sociale et circulaire chez Suez, l'entreprise gère la collecte, le tri et la valorisation des déchets de l'aéroport Marseille-Provence. Depuis un mois, tous ces produits confisqués aux passagers sont donnés au SAMU social municipal de Marseille.
On sait qu'à fin d'année, on pourra arriver à peu près à 20 tonnes de denrées qui pourront être récupérées et redistribuées.
Des denrées souvent de très bonne qualité, explique Caroline Vidal, responsable chez ICTS, la société en charge du filtrage des passagers et de leurs bagages cabine.
Il peut avoir du pâté qui est interdit. Il peut avoir des grosses boîtes de conserve. Justement, il y a des gens qui ramènent des cassoulets, des gens qui ramènent des boîtes de bouillabaisse parfois. Donc ça, c'est interdit. Ils ramènent ce que j'ai eu la semaine dernière et ça m'a un petit peu fait rire. Et la personne a insisté. De la pâte de calisson. Ce monsieur-là était un cuistot qui habitait à Bruxelles et qui tenait à sa patte, quoi.
Et si avant, la confiscation pouvait entraîner des conflits, désormais, les passagers le prennent beaucoup mieux, explique Caroline Vidal.
C'est vrai que le contrôle se passe mieux, du coup. Au départ, ils sont toujours réticents parce qu'on leur retire forcément quelque chose. Et au final, quand ils voient que c'est un don, il y a moins de conflits pour nous par rapport à ça. Je trouve que cette mesure calme beaucoup plus les passagers.
Les voyageurs confirment.
C'est très bien, sinon ça serait perdu. C'est à nous de faire attention.
Si ça peut servir à des gens dans le besoin ou quoi, tant mieux.
Et la collecte est d'autant plus fructueuse qu'ici, les passagers ont tendance à surcharger leur bagage cabine de denrées, explique Thomas Busseur de la direction de la communication de l'aéroport Marseille-Provence.
La particularité, c'est qu'on a ici quasiment un tiers de nos voyageurs qui voyagent pour retrouver leurs proches tous les ans. Et c'est des gens qui, par nécessité, transportent souvent des articles qu'on ne trouve pas dans leur pays d'origine ou là où se trouve leur famille. et qui ramènent ça du coup dans leur bagage cabine. On me dit même que souvent, pour éviter justement de payer des suppléments bagages en soute parce que c'est des choses assez lourdes, ils tentent de les amener en cabine, ne sachant pas que c'est des liquides, des pots de Nutella, du caramel beurre salé, tout un tas de pâtes en fait alimentaires qui sont considérés légalement comme des liquides.
Alors pour récupérer toutes ces denrées, les équipes du SAMU social municipal de Marseille viennent à l'aéroport 3 fois par semaine.
On a commencé il y a un peu plus d'un mois et on est à près d'une tonne 5 de produits récupérés alors qu'on est en saison plutôt basse de fréquentation de l'aéroport.
Elsa Peinturier est la responsable du SAMU social. Les produits sont ensuite distribués aux SDF dans la rue lors des maraudes mais aussi dans les douches municipales.
Désormais grâce aux produits de l'aéroport, on va avoir des jus, des sodas, des boissons fraîches qui vont être proposées en plus. Des produits d'hygiène plus spécifiques. Une femme qui a les cheveux frisés, on pourra lui donner du shampoing pour femme aux cheveux longs qui a les cheveux frisés. Ce qu'on avait auparavant, c'était des produits plutôt généralistes. Là, on va pouvoir aller vraiment sur des choses plus ciblées qui permettent en fait un sentiment de normalité aux personnes.
Et puis d'autres produits sont également confiés à des associations, des cantines solidaires.
Ça leur permet d'avoir des produits d'excellente qualité, pouvoir cuisiner avec de temps en temps de l'huile d'olive à la truffe. Et aujourd'hui, on a des enfants qui sont logés à l'hôtel, par exemple, qui ont de la pâte à tartiner de marque le matin. Et en fait, vis-à-vis des petits camarades à l'école, c'est super important pour eux de pouvoir partager un petit peu de ce quotidien normal.
La responsable du SAMU social municipal de Marseille lance un appel à tous les aéroports pour mettre en place ce type de don.
Le choix de France Info, signé ce matin Mathilde Vinceneux à Marseille, à retrouver sur franceinfo.fr. Il est 7h10, dans 5 minutes, le billet science, week-end de France Info, les découvertes de Bill François et d'abord le portrait d'actu. Le portrait d'actu de France Info ce matin, celui de la skieuse paralympique Aurélie Richard, avec déjà 4 médailles en 4 courses aux Jeux paralympiques de Milan Cortina. La championne vise le grand chelem avec une 5e médaille aujourd'hui dans le slalom. Un palmarès déjà impressionnant pour celle qui est la Benjamine de la délégation française. Elle a 20 ans. Son portrait signé pour France Info, Anne Lamotte.
Aurélie Richard le dit simplement, sa passion c'est le ski, elle n'en a pas d'autre. Et elle le dit avec le sourire, un sourire indéfectible. On l'entend même dans sa voix, comme ici dans le podcast Tribune et Podium.
Mon sport, c'est celui qui me permet d'être libre, celui que j'adore parce qu'il y a de la vitesse, il y a de l'adrénaline et puis on est au milieu de la montagne. Donc, je profite aussi des beaux paysages et puis avec les copains, c'est cool, hein.
Avec les copains, ça a toujours été cool. Aurélie Richard grandit à Seillac, un tout petit village des Hautes-Alpes. 270 habitants, une quinzaine de pistes de ski. Numéro 1 dans son cœur, la piste Sainte-Anne. Pas la plus difficile, c'est une bleue. Mais elle a tellement descendu. Il faut dire qu'Aurélie Richard a 2 ans et demi quand elle monte sur des skis pour la première fois. Dans la foulée, elle entre au club local. Écoutez la joie quand elle en parle dans cette vidéo trouvée sur le site de l'association Les Amis de Seillac.
Sur Seillac, on est un petit groupe de jeunes, on s'entend très bien depuis qu'on est tout petit. Donc on a commencé le ski quasiment tous en même temps, tous au club en même temps. On s'entendait super bien, donc on avait envie d'aller tous les jours au club pour voir les copains. Et forcément, quand on a envie d'y aller, on progresse quand même assez vite. Parce que quand il y a une bonne ambiance, forcément, le ski derrière, ça va bien.
Aurélie Richard se souvient de sa première compétition. C'est encore une enfant. Il y a tous les ski-clubs du coin, les bonbons à l'arrivée et la coupe aussi. Car ce jour-là, c'est elle qui gagne. Or, elle ne skie qu'avec un bâton. Il lui manque l'avant-bras gauche. Elle est née comme ça. Ça s'appelle une agénésie. À la place, elle porte une prothèse en forme de gros poing. Mais petite, elle s'entraîne avec les valides, comme son frère jumeau par exemple. Pas de traitement particulier de la part des parents. À l'époque, ils tiennent une ferme laitière, Nadège et Jean-Yves.
On n'a pas fait cas de son handicap, quoi. On l'a laissé vivre. Si elle a besoin d'aide, c'était elle qui nous demandait. Mais on l'a pas forcément assisté, quoi.
En fait, tout le monde la connaît, ou avec la prothèse, ou sans la prothèse. Parce que quand elle va à la piscine, elle enlève la prothèse. Donc elle est très à l'aise avec et sans. Elle dit jamais non, même l'escalade, même si on dit oh, elle pourrait pas le faire, mais si, elle fait les premières voies, Mais elle fait.
Après, la skieuse le reconnaît. Sur la neige, son équilibre n'est pas le même que celui des compétiteurs valides. Et surtout, elle perd du temps au départ, dans le portillon, quand il faut pousser sur son bateau. Alors quand elle a 13 ans, on lui propose de participer à la Coupe de France Handisport, à Vars, près de chez elle. Et là, elle raconte dans le podcast Tribune et Podium, surprise.
Bah, ma découverte, je pense que je m'en souviendrai toujours. Bah, du coup, j'avais quasiment jamais vu de personne en situation de handicap. Dans mon petit village, les gens, ils n'arrivent pas à monter jusque là-haut déjà. Et j'arrive, il y a des gens qui skient en fauteuil, des gens qui sont sur une jambe, qui skient avec qu'un seul ski, des malvoyants qui suivent des personnes les yeux fermés en fait. Et en fait, c'était une compétition de ski comme les autres, juste chaque personne a une particularité. Puis après, les coefficients et tout, moi, j'y connaissais rien, donc j'ai juste skié et profité.
Aurélie Richard profite donc, comme d'habitude, et tout de suite, elle est repérée. À 13 ans seulement, alors qu'elle n'avait jamais envisagé le haut niveau, elle intègre l'équipe de France. Elle rêve alors de 2022 et des Jeux paralympiques de Pékin, mais raté. Mauvaise chute, c'est le genou qui prend, rupture de ligament croisé. Le coup est dur, mais ça ne l'arrête pas. En 2023, à 17 ans, elle devient vice-championne du monde en descente et en slalom. L'année suivante, elle se blesse l'autre genou, toujours le ligament croisé. Ça rééquilibre les choses, s'amuse-t-elle, et elle se relève. Les Jeux de Milan-Cortina sont les premiers de celles qui se verraient bien un jour gendarme ou bien prof de sport. Sûrement pas les derniers. Évidemment, elle vise 2030 en France. Elle est ici dans le podcast Zone Bleue.
Bah, quand on voit les Jeux de Paris, comme disons, bien marché avec tous les Français autour, on a juste envie que ce soit pareil pour les Jeux de 2030. Et moi, être en France avec la famille, les Français qui sont tous derrière, j'ai trop hâte d'y être.
Et Aurélie Richard ajoute avec l'enthousiasme qui la caractérise. Et pourquoi pas les JO de 2034 ? En effet, elle n'aura que 28 ans.
Le portrait d'actu signé Anne Lamotte pour France Info avec ce matin la skieuse paralympique Aurélie Richard à retrouver sur franceinfo.fr. Et à 7h05, le billet science de France Info, Bill François avec Benjamin Fontaine.
Vous avez sûrement ressenti un jour cette sensation de fraîcheur en mâchant un chewing-gum à la menthe, au moins les premières secondes. Eh bien, des chercheurs viennent de comprendre pourquoi. Bonjour Bill François.
Bonjour.
Cette découverte, c'est une bonne nouvelle et pas seulement pour notre haleine.
En fait, jusqu'à la semaine dernière, on ne savait même pas pourquoi on ressent du froid quand on a froid. Le thermomètre de notre organisme qui détecte le froid est connu depuis longtemps. C'est une protéine au nom peu amène de TRPM8 qui tapisse les neurones sensoriels de notre bouche, notre peau et nos yeux. Mais jusqu'à présent, personne ne savait comment elle fonctionne.
Et donc la semaine dernière, une étude a révélé, a percé ce mystère.
Pour la toute première fois, des chercheurs de l'université de Duke aux États-Unis ont réussi à filmer ce capteur en action. Pour ça, ils ont utilisé la microscopie cryo-électron, une méthode qui consiste à congeler brutalement la protéine pour la figer dans son mouvement et la prendre en quelque sorte en photo. Un peu violent comme photo, mais ils ont ainsi pu reconstituer comment TRPM8 s'y prend pour nous donner froid. Quand la température descend, la protéine ouvre un petit trou dans le neurone qui laisse entrer des ions à l'intérieur, créant ainsi un signal électrique transmis au cerveau et on a froid.
Alors ça, c'est pour le froid en tant que telle, mais la menthe, alors est-ce que, pourquoi elle nous procure la même sensation ?
Tout simplement grâce à l'un de ses constituants, le menthol, qui va piéger TRPM8. Les chercheurs ont filmé ce constituant en présence de la protéine et ont observé que le menthol s'y accroche et la force à s'ouvrir en la tordant alors même qu'il ne fait pas froid. C'est une sorte de leurre qui simule le froid et c'est sur ce principe que le menthol rafraîchit notre bouche mais aussi notre peau, principe de certains baumes rafraîchissants, voire nos yeux où se trouvent aussi les récepteurs. D'autres molécules ont d'ailleurs le même effet, par exemple l'arôme d'eucalyptus, et il existe aussi l'inverse des molécules qui simulent chimiquement la chaleur, par exemple la capsaïcine du piment. Ce leurre de froid du menthol, on peut l'utiliser pour mettre au point des médicaments qui soulagent par exemple les migraines ou font artificiellement pleurer les yeux quand ces derniers sont trop secs. De nombreuses applications sont déjà en cours de test. La science souhaite donc à ce détrousseur de neurones de TRPM8 qui souffle à sa guise le froid et le chaud de souffler plutôt un vent de fraîcheur sur la médecine.
Bill François, l'homme qui ne mâche pas ses mots quand il parle de science tous les week-ends sur France Info avec nous et en podcast quand vous le voulez sur l'appli Radio France.
Le billet science, Bill François avec Benjamin Fontaine. Et avant le prochain journal à 7h, d'abord la météo, c'est dans quelques secondes.
Groupama.
Cerise nous dit pourquoi Groupama sera toujours un point de repère pour les proues.
Mais vous savez, Cerise, mon équipe, c'est comme ma famille. J'aimerais qu'ils aient une complémentaire santé qui les protège mieux.
Je comprends, Marc. Et Groupama est là pour vous simplifier la vie.
Mais je cours partout, j'ai pas le temps de me déplacer en agence.
C'est nous qui venons à votre rencontre. On gère les démarches, on accompagne vos salariés et on met en place le contrat personnalisé.
C'est parfait, ça. Merci, Cerise.
Groupama. Groupama, toujours là pour moi.
Conditions et limites des garanties, se reporter au contrat. Info sur groupamapro.fr.
BMW.
Trois notifications, 10 postes, 5 alertes. Et pourtant, vous n'allez retenir qu'une seule chose. Votre BMW Finition M-Sport a un loyer exceptionnel et sans aucun apport. Jusqu'au 31 mars, pendant les jours M-Sport, prenez le volant de votre BMW dès 290€ par mois, sans apport.
Offre valable pour une BMW 1 16 M-Sport Design. LLD 39 mois, 30 000 km. Réservé aux particuliers, c'est accord BMW Finance. Conditions sur bmw.fr.
Pensez à covoiturer.
France Info Météo, avec CIC, la facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur cic.fr.
À 6h59, la météo avec Sophie Briard. On a eu beaucoup de pluie hier, Sophie, et cette fois, les averses se décalent vers l'est.
Oui, toute la façade est concernée et les pluies sont beaucoup plus marquées entre le Jura et la Méditerranée. Elles s'étendent même jusqu'au Pays Basque et l'Occitanie. Partout ailleurs, c'est une alternance de nuages et d'éclaircies avec quelques averses par endroit. Et les températures ont baissé, ça vous l'avez remarqué. C'est la première fois depuis le 11 janvier. Nous sommes en dessous des normales de saison. Il fait ce matin de 0 à 8 degrés sur le pays. Jusqu'à 14 en Méditerranée, cet après-midi de 7 à 14 dans l'ensemble et jusqu'à 17 en Corse.
Sophie Briat, il est presque 7h, c'est le 7-10 de France Info et jusqu'à 10h, c'est Benjamin Recouvreur qui nous accompagne. Bonjour Benjamin.
Bonjour Jean-Christophe et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ce matin avec toute l'équipe de France Info. Sophie Briat pour la météo, donc Philippine Thibaudot pour l'info dans
bonjour
un instant.
Benjamin. Bonjour à toutes les deux.
C'est une petite île avec d'immenses intérêts. L'île iranienne de Karg est au cœur ce matin de la guerre au Moyen-Orient. Elle abrite la majorité des réserves de pétrole iranien et les États-Unis la menacent désormais ouvertement